Que cherchaient donc les pharisiens en interrogeant Jésus sur le divorce? Ils voulaient le mettre à l'épreuve. Ils voulaient le tester sur sa connaissance de la loi de Moïse. Face à cela, Jésus les renvoie à leur propre connaissance de cette loi de Moïse et ils apportent que le divorce est permis dans la Torah. Il en est en effet question dans le livre du Deutéronome au chapitre 24. Or Jésus, s'il est un fils d'Israël qui a fait sienne la Torah, la loi de Moïse, il manifeste par ailleurs toute une liberté par rapport à cette loi. Il affirme, on vous a dit, la loi de Moïse vous dit, moi je vous dis. Et ce faisant, Jésus n'abolit pas la loi, il lui donne un sens nouveau. Jésus ne prétend donc pas abolir l'autorisation du divorce sous certaines conditions que permet la loi de Moïse. Jésus ne se pose pas en législateur. Il ajoute simplement, c'est en raison de votre endurcissement. Et aussi, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Mais Jésus, aurions-nous peut-être envie de lui dire aujourd'hui, et si mon conjoint est alcoolique, et s'il me bat, ou bien, et si je ne trouve pas auprès de lui, auprès d'elle, mon épanouissement affectif ou sexuel, et s'il me traite comme un objet, devrais-je m'obstiner à rester avec lui, avec elle? À cela, Jésus nous répond, au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus ne se ferme pas, cependant, il ne ferme pas les yeux sur les difficultés qui peuvent survenir dans la vie d'un couple. La loi de Moïse, qui constitue aussi une législation pour toute une société, propose des solutions à certaines de ces difficultés. Et les codes civils de nos pays aujourd'hui proposent aussi toutes sortes de solutions à ces difficultés. Ces codes prévoient, par exemple, des procédures de divorce afin que les plus fragiles se retrouvent le moins lésés possible. Mais Jésus nous dit encore, par rapport à cela, c'est en raison de votre endurcissement et au commencement de la création, il n'en était pas ainsi. Laissons cette parole de Jésus, qui n'est pas un reproche, laissons-la nous pénétrer et nous enseigner. Jésus a une double visée en disant cela. Il désire ardemment que nos familles humaines ressemblent à sa famille divine, trinitaire. Et Jésus désire que nos familles soient véritablement des cellules d'amour à la base de notre société où le plus petit est pris en compte. Dans le deuxième récit de la création du livre de la Genèse que nous avons entendu tout à l'heure, Dieu tire la femme du côté de l'homme pendant le sommeil de ce dernier. Et l'homme trouve en elle la compagne qu'il cherchait et qu'il n'avait pas trouvée auprès des animaux. Et en la voyant, l'homme pousse un cri d'admiration, un cri d'amour. « Voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » Nous savons qu'après le premier péché, l'homme accusera la femme de lui avoir donné le fruit à manger, mais au commencement, l'unité était parfaite. Et lorsque, au premier récit de la création, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa », nous comprenons que l'unité entre l'homme et la femme est à l'image de l'unité en Dieu. Ainsi, les récits de la création au début de la Genèse, même s'ils sont symboliques, ils sont d'une grande portée théologique. On y découvre que l'union entre l'homme et la femme est une expression de l'être même de Dieu. Et avec la révélation de Dieu Trinité, un seul Dieu en trois personnes dans le Nouveau Testament, nous comprenons encore mieux que si l'être humain est appelé à être famille, c'est parce que Dieu est famille. La famille, composée d'un homme et d'une femme qui s'ouvre à la venue et à la croissance d'enfants auprès d'eux, et toutes nos familles humaines, ce n'est pas là une invention des humains, c'est l'être même de Dieu. Voilà ce que Jésus porte lorsqu'il apporte ainsi son bémol, grand bémol, à l'autorisation faite par la loi de Moïse de remettre un acte de répudiation. Et dans l'Évangile, selon saint Matthieu, dans le passage qui correspond à ce que nous avons lu aujourd'hui, nous voyons que Jésus apporte à ses disciples la vocation au célibat à cause du royaume des cieux, tout de suite après celle du mariage. Donc, c'est la vocation à la vie consacrée, nous dirons aujourd'hui. C'est que l'une et l'autre ont en commun d'être en vue des noces éternelles. Ces noces de l'agneau dont le livre de l'Apocalypse déclare, et la liturgie de la messe aussi, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous le dirons tout à l'heure, juste avant de communier. Dans le mariage, sur cette terre, l'homme et la femme goûtent déjà quelque chose des noces éternelles. Et dans le célibat consacré, ceux et celles qui ont choisi cette vie, ils ont choisi de vivre ainsi, ils se réservent en vue de ces mêmes noces éternelles. Si donc Dieu nous a créés hommes et femmes, c'est pour que nous partagions sa vie trinitaire, sa vie d'amour, toujours en expansion. Le saint pape Jean-Paul II en parle d'une façon admirable dans ce qu'on a appelé la théologie du corps. Il importe de ne pas perdre de vue cela, car même si notre vie familiale ou sexuelle sur cette terre est apparemment loin d'un tel idéal, cela reste inscrit en nous et cela reste présent dans toutes nos quêtes, toutes nos recherches, même les plus chaotiques, quel que soit notre parcours, quelles que soient nos épreuves, nos échecs, nos blessures, tout cela reste inscrit au fond de nous. Ainsi, l'enseignement de Jésus sur le couple, le mariage et l'enseignement de l'Église sur ce sujet, à sa suite, ce n'est pas d'abord une morale, c'est d'abord une bonne nouvelle pour tout homme, pour toute femme, quel que soit son parcours. Nous sommes tous appelés à prendre part aux noces éternelles en Dieu. Et la célébration de l'Eucharistie en est un avant-goût bien significatif sur cette terre. Dans le passage de l'Évangile que nous avons entendu, après la parole de Jésus sur le mariage, il y a aussi une parole de Jésus sur les enfants. Ce sont apparemment là deux sujets différents, mais l'évangéliste Marc les a mis à la suite l'un de l'autre. Et la liturgie de l'Église nous les présente aussi ensemble en ce dimanche. Alors, puisqu'ils sont ensemble, Regardons quel lien il peut y avoir. Et si la parole de Jésus sur les enfants éclairait sa parole sur le mariage? Lorsqu'il y a séparation, divorce dans un couple, il y a toujours des petits qui en sont des victimes innocentes. Il y a d'abord le conjoint qui est injustement abandonné par l'autre. Dans la loi de Moïse, un homme qui prend une femme et qui lui découvre une tare peut la répudier simplement en rédigeant un acte de répudiation. Et de nos jours, dans nos sociétés occidentales, il suffit qu'un conjoint déclare qu'il n'aime plus l'autre pour qu'un divorce en bonne et due forme soit prononcé. Et surtout, il y a les enfants qui sont les victimes innocentes des séparations de leurs parents. De nos jours, c'est là une grande crainte, une angoisse même pour des enfants qui ont atteint l'âge de raison que de devoir assister impuissants au divorce de leurs parents. Eux qui sont nés de l'amour de leurs parents devraient voir leurs parents se haïr. Et les gardes alternées, les familles recomposées peuvent bien aider les enfants à sortir du traumatisme de la séparation de leurs parents. Mais rien ne remplacera pour un enfant l'unité et l'amour durable de ses deux parents. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est à ceux qui ressemblent aux enfants. Retrouvons notre cœur d'enfant pour accueillir cette parole de Jésus qui peut nous sembler exigeante. Si je considère le petit, le faible, que je risque de blesser par mon comportement, et cela peut être mon enfant selon la chair, cela peut être mon enfant spirituel, des personnes qui me sont confiées, qui comptent sur moi, qui me regardent, qui observent tous mes comportements. Si donc je considère ce petit, ce faible, je saurais relativiser mes besoins affectifs, sexuels, aussi légitimes soient-ils, mes frustrations relationnelles passagères, et je saurai davantage m'engager avec Jésus dans le bon combat de l'amour véritable, de la fidélité et de la maîtrise de mes pulsions. Au commencement de la création, Jésus les filles hommes et femmes. Donc ce que Dieu a uni, avec la grâce du Christ, que l'homme ne le sépare pas.